Le journal Frédéric Barrère.
Bonsoir à tous. 8 nouveaux départements basculent en rouge et en couvre-feu à 18h à partir de demain dans les Bouches-du-Rhône, très opposés à la mesure. Dans le même temps, la France est en alerte face au variant anglais du coronavirus. Un cluster de cette nouvelle souche du virus a été détecté dans les Bouches-du-Rhône. Le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés, sans doute franchi ce week-end, annonce aujourd'hui d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, en visite à Tarbes avec le Premier ministre Jean Castex. Donald Trump menacé d'une nouvelle procédure de destitution. Le texte rédigé par les démocrates est prêt. La procédure pourrait être lancée lundi. Donald Trump et Twitter. La fermeture du compte du président américain sortant provoque un vif débat. Plusieurs responsables politiques français alertent sur les risques pour le débat public. Et puis notre rendez-vous du samedi 19h avec Ma Vie Connectée et Christine Siméon. Comment polluer moins avec nos portables? La météo, froid et gris à l'est, froid avec des éclaircies à l'ouest. Les deux départements corses restent en vigilance orange ce soir pour risque d'avalanche. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
La chute de la maison Trump, le président américain sortant est depuis mercredi soir un homme isolé, abandonné par ses alliés après le coup de force contre le Capitole. Donald Trump est poussé vers la sortie et le camp démocrate est bien décidé à lancer une procédure de destitution, Franck Madvon.
Si Donald Trump ne démissionne pas, et ce sera sans doute le cas, les démocrates pourraient lancer lundi une nouvelle procédure de destitution, la seconde donc visant Trump, déjà mis en accusation une première fois pour avoir fait pression sur l'Ukraine afin de discréditer Joe Biden. La motion est déjà écrite par des élus démocrates. Elle vise le président pour avoir incité à la violence mercredi et avoir mis en danger la sécurité des États-Unis. Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants, estime que tout est réuni pour poursuivre Donald Trump. Malheureusement, dit-elle sur CBS, le président des États-Unis est dérangé, déséquilibré, dangereux. Il ne reste que quelques jours avant de pouvoir être protégé de lui, mais il a fait une chose si grave qu'il faudra des poursuites contre lui. Nancy Pelosi a même contacté l'armée pour s'assurer que Trump ne pourra pas déclencher l'arme nucléaire d'ici à la fin de son mandat. Une destitution est-elle possible en 11 jours seulement ? Sans doute pas. La Chambre démocrate pourrait voter cette semaine en faveur de la procédure, puis le Sénat doit organiser un procès qui pourrait se tenir, étonnamment, après l'investiture de Joe Biden et le départ de Trump de la Maison-Blanche. Washington, Franck Madvon, France Inter.
Donald Trump, qui est également banni du réseau social Twitter. Le réseau social a suspendu son compte de façon permanente. Une mesure inédite qui provoque un vif débat, notamment dans la classe politique en France. Pour Cédric O, secrétaire d'État au numérique, cette suspension de Twitter du président américain pose des questions fondamentales sur le débat public.
Ce qui interroge dans cette histoire, c'est que Twitter prend une décision unilatérale, dont on peut se demander d'une certaine manière pourquoi maintenant ? Donald Trump a fait pire dans le passé. Pourquoi lui et pas d'autres qui font pire ? Et les réseaux sociaux, certains, les plus grands, sont devenus de véritables espaces publics. Et ils peuvent décider de manière complètement unilatérale et avec très peu de supervision démocratique ou d'action de la justice, donc hors état de droit, en tout cas en se référant à leur seule condition générale d'utilisation, de censurer quelqu'un qui a 88 millions de followers. Et donc interviennent dans le débat public sans aucune supervision démocratique.
Cédric O, avec Catherine Potier, la classe politique en France, on l'en parlait, a réagi à la décision de Twitter de fermer le compte de Donald Trump. Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, et Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, pointent notamment le danger pour la démocratie que font planer les GAFA, ces géants du numérique, qui s'arrogent, disent-ils, un pouvoir, celui de contrôler le débat public. Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National en déplacement en Portugal, condamne ce qu'elle appelle un coup de force démocratique de Twitter.
On ne peut pas d'un côté condamner les atteintes à la démocratie et en même temps ne pas être extrêmement sévère, extrêmement inquiet et condamner très fermement ces géants du numérique qui en réalité veulent directement influer sur la démocratie en décidant qui a le droit de parler, ce que des gens qui sont des dirigeants politiques ont le droit de dire. Je pense que c'est une dérive très grave. On n'en est d'ailleurs qu'au début. Et il faut sérieusement se poser la question de la responsabilité de ces géants du numérique dans une forme d'effondrement annoncé de la liberté d'expression.
Marine Le Pen avec Élodie Forêt. La France est donc en alerte face au variant anglais du virus. Un cluster de cette nouvelle souche du virus a été détecté dans les Bouches-du-Rhône, un cluster familial élargi, indique la préfecture. 21 personnes sur 46 cas contacts ont été testées positives au variant britannique de ce coronavirus. Dans ce contexte, les Bouches-du-Rhône et sept autres départements vont donc basculer en couvre-feu dès 18h à partir de demain. Le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Côte d'Or, le Cher, l'Allier, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et bien sûr les Bouches-du-Rhône. Michèle Rubirola, ancienne maire de Marseille et aujourd'hui première adjointe de la ville en charge notamment de la santé. On l'écoute.
L'ARS m'a de suite prévenu qu'il y avait ce cluster avec ce variant suspecté. Et il faut savoir que les personnes ont été testées, les positifs sont isolés, que le tracing Covid, donc mis en place par l'assurance maladie, fonctionne et recherche tous les cas contacts, mais la majorité est déjà repartie. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le bataillon des marins-pompiers de la ville de Marseille a proposé d'aller faire les tests surfaciques chez les personnes qui étaient positives pour chercher de la Covid et tester un maximum de personnes. Donc en fait, Marseille s'est mis en ordre de marche dès qu'on a su l'existence de ce cluster. C'est vrai que je suis en contact avec la communauté médicale qui aussi m'éclaire de toutes leurs connaissances pour prendre des décisions les plus appropriées. Et c'est pour ça que je suis en colère par rapport au couvre-feu à 18h, quoi. Par rapport à 20h. Vous avez bien vu que la famille qui a fait le cluster s'est réunie. C'était une réunion familiale. Une réunion familiale, ça peut commencer à 18h, pas forcément à 20h, vous voyez. Et c'est ça, je me dis, on n'a pas pris peut-être une décision opportune.
Voilà, Michèle Rubirola avec Béatrice Duguay. Le Var et la Drôme basculeront à leur tour en couvre-feu avancé à 18h à partir de mardi. Couvre-feu à 19h dès lundi à Monaco. À Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un dépistage géant a été organisé aujourd'hui. Un cas positif au variant anglais du virus a été détecté dans les écoles et le collège de la ville. Plusieurs centaines de personnes se sont fait tester. L'opération de tests à grande échelle va se poursuivre jusqu'à mardi avec une pause demain dimanche. Ce variant anglais du virus est réputé plus contagieux, notamment auprès des jeunes, selon le professeur Éric Combe, chef du service des maladies infectieuses à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Le virus mutant est déjà là, on n'y échappera pas.
C'est illusoire, c'est une illusion. D'abord, il est déjà là, je pense. Et puis ensuite, on parle du variant britannique, on parle du variant sud-africain. Moi, dans mon hôpital, j'ai deux patients qui sont atteints du variant britannique. Vous savez d'où ils viennent? Il y en a un qui vient du Liban et l'autre qui vient de la péninsule arabique.
Donc on n'y échappera pas,
il est déjà partout. Quel que soit le variant, les mesures barrières sont efficaces. Mm-hmm. Donc si on applique les mesures barrières, quel que soit le variant, de toute façon, on n'aura pas de problème avec ce variant. Mais c'est si on applique les mesures barrières. Si on n'applique pas les mesures barrières, bah oui, on aura un problème avec ce variant. Mais la clé, c'est pas le variant. La clé, c'est de respecter les mesures barrières.
Le professeur Éric Combe de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Concernant la campagne de vaccination maintenant, une campagne qui s'accélère. Jean Castex et Olivier Véran étaient aujourd'hui à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dans un centre de vaccination. Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont voulu rassurer et faire taire les critiques sur une campagne de vaccination jugée laborieuse. Reportage à Tarbes, Manon Clavry.
Olivier Véran était là pour rassurer. La France passe à la vitesse supérieure.
Nous passerons donc probablement le cap symbolique des 100 000 Français vaccinés dans le week-end et nous accentuerons à partir de la semaine prochaine l'ensemble des territoires qui ont été pourvus en vaccins et qui en ont besoin à nouveau la semaine prochaine seront fournis toutes les semaines.
À commencer par 500 000 doses du vaccin Pfizer la semaine prochaine avec en plus 50 000 doses du nouveau vaccin, celui du laboratoire Moderna. Accélérer, il le faut, oui, mais tout en restant sérieux. C'est ce sur quoi le Premier ministre Jean Castex a insisté.
Nous voulons d'abord faire les choses dans la sécurité et apporter toutes les garanties qu'une vaccination, ce n'est pas un acte anodin, suppose.
Pas un acte anodin et pas non plus toujours spontané. Le deuxième défi du gouvernement après l'aspect logistique, c'est de convaincre les Français de se faire vacciner. Jean Castex en a appelé aux élus locaux pour cela. En croire le Premier ministre, les mentalités commencent à évoluer.
Au dire des professionnels qui s'en occupent, ce taux d'adhésion augmente. C'est l'objectif majeur, que le maximum de nos concitoyens par priorité successive, adhère à la vaccination.
Le 18 janvier, ce sera au tour des plus de 75 ans d'être éligible. L'objectif étant qu'à la fin du mois, on atteigne le million de vaccinés.
Manon Clavery de France Bleu Béarn. Et puis, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, et son époux, le prince Philippe, ont été vaccinés aujourd'hui contre le coronavirus. Ils ont reçu leur première injection à Rome, au Vatican. Le pape annonce qu'il se fera vacciner la semaine prochaine et le pape François dénonce un négationnisme suicidaire des oppositions au vaccin. À l'étranger, en Indonésie, un Boeing 737 a disparu des radars peu après son décollage de Jakarta. L'appareil transportait 62 personnes. Les autorités indonésiennes craignent une probable chute en mer de Java. Des bateaux ont été déployés sur le site probable du crash. Des conditions météo jamais vues depuis 50 ans en Espagne. Madrid paralysée par une tempête de neige. La tempête Filomena a fait au moins 4 morts. L'aéroport de Madrid est fermé. Des centaines d'automobilistes sont bloqués. L'armée espagnole a été mobilisé. Des violences en Centrafrique. Des rebelles ont attaqué une ville importante à 430 km de Bangui. Ces groupes armés sont à l'offensive contre le pouvoir du président Touadéra, réélu il y a 15 jours. Des avions de chasse français ont survolé à 2 reprises la République centrafricaine. Emmanuel Macron a réaffirmé aujourd'hui son soutien au processus électoral en Centrafrique. En sport, en rugby, une grande incertitude entoure la saison internationale qui s'annonce, tournoi des Six Nations et Coupe d'Europe. Le ministère des Sports recommande de reporter les matchs de Coupe d'Europe face aux équipes anglaises prévues dès le week-end prochain. Et le tournoi des Six Nations, qui doit débuter en février, est également dans la balance, Fanny Lechevestrier.
Une recommandation envoyée à la Ligue nationale de rugby est basée, nous précisons, sur des directives très fermes du ministère de la Santé en raison de l'aggravation de la crise sanitaire en Grande-Bretagne. Or, le week-end prochain, plusieurs équipes de rugby françaises devaient affronter des formations britanniques. Le Stade toulousain à Exeter, par exemple. Le Racing 92 recevait, lui, les Harlequins. Il n'en saura rien. La Ligue laisse entendre clairement aujourd'hui qu'elle suivra les préconisations du ministère dès réception du courrier. Les présidents des clubs de top 14 doivent d'ailleurs se réunir en urgence demain matin. Mais aujourd'hui, ce sont bien tous les événements sportifs internationaux qui se retrouvent menacés. Le ministère des Sports précise qu'une réunion doit se tenir en tout début de semaine concernant le tournoi Destination de rugby prévu à partir du 6 février. Un recensement de toutes les manifestations programmées dans les prochaines semaines et impliquant des participants britanniques est également en cours. Des discussions débuteront dès lundi avec les organisateurs et les fédérations concernées.
Fanny Lechevestrier, notre rendez-vous du samedi 19h avec Christine Siméon et Ma Vie Connectée. Bonsoir Christine.
Bonsoir.
Et une bonne résolution pour 2021, avoir des usages plus modestes de la technologie pour freiner notre impact environnemental et moins polluer, même si Christine, on ne va pas jeter nos smartphones ni arrêter les messages ou les visioconférences. Alors Christine, comment fait-on ?
Le numérique pollue autant que le trafic aérien, selon les experts de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Donc, pour savoir que faire, il faut bien comprendre à quel moment l'usage d'un smartphone ou d'un ordinateur pollue vraiment. Voilà ce que nous en dit Raphaël Guastavi de l'ADEME.
L'impact environnemental de ces objets se fait tout d'abord au niveau de la phase de fabrication. Sur l'ensemble du cycle de vie d'un smartphone, par exemple, la phase de fabrication va représenter pas loin de 80% de son impact environnemental.
Voilà, il faut réparer ces appareils, les acheter d'occasion si possible. L'important, vous l'avez compris, c'est de ne pas avoir à les fabriquer. N'oubliez pas que 80% des gens changent de téléphone alors que celui-ci fonctionne encore. Ce serait la vraie bonne résolution de ne pas changer d'appareil si fréquemment.
Alors, Christine, je croyais également qu'il fallait aussi jeter ses mails, en tout cas ne pas les conserver.
Jeter vos mails, oui, bien sûr, et ne pas les conserver, ce serait une bonne résolution, Frédéric. Mais voilà ce qu'en pense Raphaël Guastavi.
Alors, j'ai envie de dire que c'est finalement une bonne approche en termes de sensibilisation. Après, c'est vrai que ça ne pèse pas grand-chose par rapport notamment aux vidéos.
Ça ne fait pas la différence. Jeter ses mails, c'est bien, mais mieux vaut éviter de regarder des vidéos en ligne.
C'est peut-être par exemple plutôt télécharger en amont sur les réseaux fixes dès lors qu'il y a beaucoup de données, donc les applications qui permettent de télécharger la vidéo pour pouvoir la visionner après de façon nomade si besoin.
Le streaming de ces vidéos est mortel pour la planète. Alors je sais, vous allez me dire, à l'heure du télétravail et de la visioconférence, cette frugalité n'est pas de saison. Eh bien oui et non, il faut être raisonnable, s'en tenir à des visioconférences absolument incontournables. L'ADEME a enquêté les inconvénients pour la planète et sa pollution obtenus en raison du télétravail restent moins impactants que ceux qu'on aurait eu si les transports avaient continué à fonctionner à plein régime en 2020.
Ma vie connectée, Christine Siméon, a retrouvé sur franceinter.fr à travers un quiz, 10 questions pour mieux comprendre et donc 10 conseils à suivre pour moins polluer avec nos appareils numériques. Le temps pour demain.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, devenons tous acteurs de notre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski.
Persistance du temps froid demain avec généralement moins 2, moins 4 au réveil, jusqu'à moins 6 sur la Haute-Marne, moins 7 sur les plateaux du Massif central et au mieux 2 à 5 degrés l'après-midi sur la plupart des régions. Il fera 10 à 13 sur le Var, la Côte d'Azur et la Corse et 5 à 6 degrés dans le Golfe du Lion. La dépression qui circule en Méditerranée va donner un temps perturbé des Pyrénées centrales au bassin méditerranéen avec un peu de neige à partir de 400 mètres sur les pentes pyrénéennes, de la pluie parfois mêlée de flocons du golfe du Lion à la Côte d'Azur et à nouveau des pluies soutenues sur la Corse venant déstabiliser l'épais manteau neigeux avec à la clé une vigilance orange en raison du fort risque d'avalanche sur la montagne Corse ce soir, la nuit prochaine et encore demain. Sur le reste du pays, les brouillards givrants et les grisailles fréquents en fin de nuit évolueront souvent plus facilement qu'aujourd'hui avec des éclaircies plus larges qu'ailleurs sur les régions de la moitié ouest.
Jean-Michel Golinski de Météo France.